Bouddha nous a donné un chemin, c'est la quatrième vérité, pour nous permettre de libérer l'esprit de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est cette importance trop grande que nous donnons au moi, on pourrait dire. Le moi est précieux parce qu'il a des compétences extraordinaires de compréhension, d'altruisme, de libération, de bonheur, mais de bonheur vrai. Et quelquefois, il succombe à cette inquiétude existentielle qui fait qu'il devient extrêmement important pour lui de devenir quelque chose, d'être quelque chose, d'avoir. On connaît bien cette manière d'être attaché à ce que nous voulons à un niveau très petit, très fin, et également par rapport à des élans beaucoup plus larges de ce que nous souhaitons réaliser dans nos vies. Et ça n'a rien de négatif du tout, c'est vraiment le monde, et nous pouvons sentir quand nous sommes plutôt dans cette qualité d'expansion de la conscience où nous sentons notre appartenance, notre interconnexion, notre être ici et maintenant. Le corps est là, l'énergie est disponible. Pour ce que nous voulons réaliser. Et ces moments où tout à coup nous succombons au stress, à l'anxiété, à la révolte, et ça crée une confusion mentale qui fait que les choses prennent trop de poids. Et de nouveau, ça peut être tout petit. J'ai faim, j'ai pas mangé, j'ai faim, et tout d'un coup le corps a faim. Il pourrait très bien attendre, je veux dire, c'est pas une faim. Mais ça devient fort. Et pour les grandes choses de la vie, nous succombons également à cette perception que ça n'est pas assez, qu'il faut plus, plus, plus. Ou autre chose, autre chose, autre chose. Et l'important, c'est vraiment le comment, avec la pleine conscience, nous pouvons reconnaître ce qui est là, reconnaître cette emprise de avidya, la non-connaissance. Tout d'un coup, nous sommes aveuglés. Et c'est ça qui nous permet de retrouver l'équilibre. Ça, ce sont les trois premières vérités. Il y a dukkha, quelquefois cet aveuglement s'éveille ou émerge. Il y a la cause de dukkha, c'est que quand cet aveuglement émerge, je le saisis, soit en termes de rejet, soit en termes d'accaparement ou de désir de maintenir lorsque c'est bon. Et la troisième vérité, avec la claire vision de cette réalité de dukkha, et la deuxième vérité qu'on appelle tanha, nous pouvons nous libérer. Il y a une réalité possible ici et maintenant d'être libéré lorsque nous comprenons et que nous revenons à l'être ici et maintenant. comme c'est extrêmement profond et difficile à réaliser, à l'intérieur de nous-mêmes, le Bouddha a proposé ce chemin qui est lié à trois aspects. Le premier, c'est cette compréhension juste, ce dont on a parlé en fait les trois dernières fois où on a repris après le coronavirus. Comprendre ce que la vie peut nous offrir est l'intention, Sama Sankappa en pali, quelle est l'intention sage ou juste qui va me permettre d'être plutôt dans ce qui est précieux en moi-même que dans ce qui est important. Donc de nommer notre intention, nous pouvons le faire juste maintenant. Et chacun va le faire selon son propre vécu. Quelle est mon intention? Vers quoi est-ce que je veux vraiment aller? Qu'est-ce que je souhaite vraiment développer? De quoi est-ce que je souhaite être libérée? Et nous pouvons sentir lorsque cette question émerge, quelle est mon intention? Comment, en tout cas pour moi c'est comme ça, comment naturellement je sens, même si je n'arrive pas très bien à le formuler, je sens vers quoi, à quoi j'aspire, vers quoi je veux aller, ou quel est mon élan fondamental. Et c'est le lâcher prise et la compassion. La relation souple aux autres, la relation ouverte et aimante aux autres, et l'absence d'anxiété ou d'avidité en moi. L'avidité étant au fond une conséquence d'un manque. C'est donc le premier aspect du chemin, ce qu'on appelle Samma Ditthi, la compréhension sage et l'intention sage. Et le deuxième aspect, c'est la pratique. Si nous n'exerçons pas l'assise, la conscience présente lorsque nous marchons, lorsque nous vivons dans les activités quotidiennes, si nous oublions toujours, nous allons entendre des choses qui nous parlent, mais nous n'allons pas pouvoir les intégrer énergétiquement en nous. Donc, l'exercice est essentiel. Et il demande un effort déterminé et bienveillant. Ça n'est pas facile, sans entraînement, de s'asseoir et de se sentir immédiatement nourri par l'absence d'activité, de parole, par l'immobilité et l'arrêt, le confinement. Nous nous confinons chaque jour un petit moment et peu à peu nous sentons combien c'est bienfaisant, combien c'est essentiel. et tous les bénéfices que nous pouvons retirer, même si au début l'expérience est essentiellement agitation, et quelquefois même après, c'est nous vivons dans le monde, et le monde nous impose ou nous offre des contacts infinis à tous les niveaux, au niveau visuel, auditif, sensoriel, mental, émotionnel, combien nous voyons d'images, de pubs, de combien nous voyons passer de voitures sans les voir, mais tous ces contacts créent un impact sur le corps et l'esprit. Nous ne sommes plus à l'époque où nous vivons en tribu et où nous nous réveillons le matin dans la forêt avec le chant des oiseaux et toujours les mêmes personnes que nous côtoyons. Et la marche, seulement la marche comme moyen de locomotion. C'est tout autre chose notre monde aujourd'hui. Et que nous le regrettions ou non, c'est les choses telles qu'elles sont. Et c'est avec ça que nous pouvons nous asseoir pour au fond manifester notre profond souhait de rencontrer ce qui est au-delà de ces conditions du 21e siècle. Donc l'effort sage, le fait de nous asseoir, est une manifestation de l'intention qui est la nôtre de lâcher prise et de compassion. Et si nous nous souvenons de notre intention, c'est plus facile de traverser une demi-heure d'expérience au fond insatisfaisante, parfois, et de le faire avec joie, parce que même si l'esprit n'est pas posé, même si le corps anticipe sans arrêt, aimerait que ce soit fini, je sais pourquoi je le fais. Et l'assise est comme notre vie, quelquefois l'expérience est tellement bonne, calme, comme une absence de sens du temps, je suis ancrée, posée, ouverte, spacieuse, tranquille, avec une qualité d'équanimité, je suis prête à tout recevoir. Et quelquefois, l'impact du monde a un effet, je peux le sentir dans l'assise. L'énergie devient haute. C'est difficile de sentir tout le corps. Ce sont plutôt les pensées qui peuvent être reconnues. C'est moins agréable. Nous pouvons reconnaître ça. Ah ouais, c'est pas très agréable. Mais enfin, je suis là. Et même si la présence m'est enlevée souvent par le futur, le passé ou les évaluations diverses et variées, mon corps exprime tout ce que je veux dire puisqu'il reste assis là. Et c'est parce que nous restons assis, malgré la non-satisfaction de l'expérience dans l'instant, que notre pratique s'approfondit. Et parfois, nous sommes insatisfaits de nos efforts. Il y a un doute, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je ne devrais pas plus? Et ça demande un engagement, une résolution une forme de sacrifice de notre précieux temps dans la journée. Je prends un temps pour du rien. C'est ce qui donne beaucoup plus d'amplitude à l'expérience quotidienne. Parce que la rencontre avec l'instant se fait plus profonde, plus solide, plus réelle. Je suis moins dans le papillon qui vole à gauche, à droite. Je me pose mieux dans toutes ces activités de la journée et dans toutes ces rencontres aussi avec l'autre dans la journée, avec les autres. Donc la qualité du comment je me lie à la vie augmente. Et c'est très précieux. Parce que nous traversons l'impermanence, toutes les vicissitudes du monde avec une qualité autre que celle d'être mené comme un fétu de paille au gré de la rivière. L'exercice et l'efforçage entre concentration et pleine conscience. Nous avons besoin de concentration, nous avons besoin de ces temps où simplement nous avons un objet en conscience et que nous le maintenons. Je maintiens, que ce soit la respiration, que ce soit tout le corps, je reste avec. Et quand la conscience part, je reviens, je reviens, je reviens. C'est très précieux. C'est un mouvement un peu désagréable, mais combien précieux. Et c'est très bon de décider avant d'aller faire notre temps d'assise combien de temps je vais m'asseoir et d'avoir la résolution de rester quelle que soit l'expérience. Parce que le temps, cette rigueur, pour une fois l'horloge est très, très, très bonne, enfin pour une fois l'horloge est très bonne, et la demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure que je choisis de prendre, les 10 minutes ou les 5 minutes que je choisis d'offrir à ce rien, il y a cette résolution liée à mon intention. Le dharma, la vérité a de l'importance pour moi, donc ce temps-là, je vais le donner, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse beau temps. Le troisième aspect, c'est la moralité ou l'éthique, sila. Et c'est un aspect important, surtout au seuil des vacances, où peut-être nous allons donner un peu moins de temps à la pratique, moins de temps à écouter des enseignements ou venir pratiquer avec d'autres. Et l'éthique comme facteur du chemin, comme aspect du chemin, c'est ce soin que nous donnons à comment j'agis et comment je parle. Être respectueux de l'autre, des biens de l'autre, du corps de l'autre, des besoins de l'autre. Avoir cette qualité d'écoute pour que je réponde à la vie d'une manière bienveillante. Lorsqu'on parle de moralité, il y a bien sûr les préceptes. Nous veillons à ne pas tuer, ne pas prendre la vie d'une manière générale. C'est tout le problème avec les jardins où il y a des limaces, avec les prédateurs qui, quelquefois, nous rendent la vie dure et nous avons des décisions à prendre. Le fait d'y réfléchir, de nommer notre intention, de tenter notre mieux pour préserver la vie, même de ces moustiques désagréables, c'est important. Après, le bon sens nous mène et chacun a sa manière de gérer ce précepte. En sachant que parfois ça n'est pas parfait. Pour ma part, quelquefois, je dois. J'ai eu un temps énormément de souris, je ne savais pas quoi faire, j'étais submergée de souris. Elles allaient jusqu'à faire un trou dans mon frigo, je trouvais des souris dans mon frigo. Ben pour finir, j'ai fait une petite prière et puis j'ai mis de l'antirat. Mais j'y pense encore. Ce sont des actes que parfois nous sommes amenés à faire et qui sont lourds sur la conscience. Et c'est important que ce soit lourd. Parce que c'est ça aussi qui fait que nous cultivons la moralité. C'est pareil avec le fait de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Non seulement éviter de voler, mais être généreux, savoir que si nous avons beaucoup, nous pouvons partager. Donc, autant préserver la vie. Aussi, j'ai oublié de vous dire que je me rachète de mes souris, mais je vous l'ai déjà dit dans d'autres enseignements, mais peu importe, en sauvant les vers de terre quand il pleut. Voilà, pour moi c'est un souvenir de mon intention, c'est une manière de manifester mon intention, sauver les vers de terre quand il pleut. Donc voler, ne pas voler est offrir de nos biens pour développer ce deuxième aspect lié au respect du bien d'autrui. Et de nouveau, le faire comme aspect du chemin, ça fait partie du chemin. C'est des fois difficile de donner. On a notre sécurité passe par ce besoin d'accumulation. Nous sommes la fourmi de la fable de la fontaine. Et de nouveau, c'est un équilibre à trouver entre notre élan de générosité et d'interconnexion et de savoir que je pourrais être l'autre et nos limites liées à notre sécurité. Le respect du corps de l'autre à travers la sexualité, la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes et de l'autre. C'est un aspect important parce que la sexualité touche à cette unification des corps qui peut être très belle, mais qui est très complexe et qui est à explorer. L'intention, là aussi, est tellement importante. Quelle est mon intention ? Et sentir se donner et recevoir, aussi à travers la tendresse, le toucher de l'autre. Et énergétiquement, ce soin Je sais combien c'est bienfaisant lorsque le partage peut être ouvert, confiant, et combien c'est douloureux quand ça n'est pas tout à fait parfait, quand c'est un peu... quand il y a un peu de compromission, un peu de sens du devoir, un peu de... complexité. C'est ok. Quelquefois, il y a dukkha, dukkha. Quelquefois, une absence. Mais là aussi, comme aspect du chemin, nous donnons du soin. La parole. Ne pas mentir. Être celui qui crée la concorde, la bonne entente. Veiller à ce que notre parole soit apaisante pour l'autre, qu'elle comporte une qualité de calme et d'ouverture. Et puis, ne pas trop employer la parole. Se souvenir des bienfaits du silence. Même quand c'est un tout petit peu... lourd quelquefois, être en silence n'est pas parfaitement aisé. Nous avons notre inquiétude relationnelle fait que nous aimerions dire des choses pour apaiser un vide. Souvent, c'est mieux de traverser le vide et d'attendre que la parole émerge plutôt que de toujours essayer de rencontrer l'autre trop vite. Et la parole est tellement porteuse de puissants bienfaits, mais aussi de terribles peines, que ça vaut la peine de bien explorer comment être dans le respect de moi-même et de l'autre à travers ce véhicule merveilleux et redoutable. La moralité, ce sont ces préceptes, l'acte juste, comment est-ce que je vais agir dans ma vie et comment est-ce que je vais parler. Et c'est aussi le troisième aspect, c'est le mode de vie sage. Quels sont mes choix qui sont en accord ou disons qui ne sont pas en complet désaccord parce que tout ça n'est pas parfait. Avec mes valeurs ou mon intention première, fondamentale. Comment est-ce que j'arrange ma vie pour être unifiée entre mes choix et mon intention? Et là aussi, l'exploration est importante, ça n'est pas tellement le résultat. Je peux très bien savoir que à cet endroit-là, il doit y avoir un peu de compromission. Je ne peux pas complètement être en accord parce que nous devons vivre, parce que notre sécurité est doit passer par là. Nous sommes donc en chemin avec ces trois aspects qui s'entraident les uns les autres parce que je fais attention à l'autre, parce que je respecte, surtout je m'efforce d'être dans ce qui est ouvert, bienveillant et compassionné, généreux, parce que je m'arrête quelquefois, que je donne du temps à la pratique, parce que j'enrichis mes connaissances par des textes ou des enseignements qui me nourrissent. Alors, entre ces trois aspects qui se tricotent à l'intérieur, tout à coup, nous réalisons il y a vraiment quelque chose qui a changé. Je peux vraiment dire que il y a plus d'ouverture. Il y a plus de tranquillité. C'est plus simple. Il y a moins de tension et de stress. Le chemin porte des fruits. Il fait son œuvre à l'intérieur parce que j'y marche avec engagement. Et toujours se souvenir que nous marchons ensemble, qu'il y a tellement de gens sur cette terre qui sont dans cette intention bénéfique. Nous ne sommes pas seuls, même si nous sommes seuls sur notre coussin. Et sentir combien nous sommes partie de cette sangha large à la surface de cette planète nous aide à maintenir le cap et à rester dans cette belle résolution de marcher sur ce chemin. Ensemble.